Société, religion et charité au XIXe siècle. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac 1801-1868 par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville d'Anglette. 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge, Anglette. La papauté du XXe siècle et la béatification et la canonisation des grandes figures sociales de l'Église. Voici l'intervention de Marc Agostino, professeur émérite de l'Université Bordeaux-Montaigne. La papauté du XXe siècle et la béatification et la canonisation des grandes figures sociales de l'Église. Marc Agostino.
J'ai un petit peu de scrupule à aborder un sujet purement historique, maintenant, après une vocation historique et spirituelle, faisant appel autant, je dirais, au sentiment des auditeurs, et c'était normal avec Élise Sestac, j'ai moi-même été fort ému, et moi je vais vous faire de l'histoire historienne, voilà, dans le cadre d'un colloque international historique sur le père Sestac. Alors excusez-moi de changer de tempo. Je tiens à préciser que je suis ici pour plusieurs raisons, et en particulier mon amitié ancienne, très ancienne, avec Madame Josette Pontet, et qui, la première, m'avait parlé de Sestac. Puisque je le connaissais de nom, je savais que c'était une personnalité bayonnaise. Et puis, Madame Pontet m'avait présenté le docteur Vaillant, que certains d'entre vous ont probablement connu, qui m'avait dit « Ma petite fille veut faire une maîtrise sur Bayonne religieuse au XIXe siècle. » Et avec une espèce de soviète, si j'ose employer ce mot, comprenant la fille, moi-même, le docteur et Josette Pontet, nous lui avions donné un sujet sur le père Sestac et la pauvreté. Et c'était peut-être c'est la seule maîtrise universitaire qui ait été faite sur le père Sestac. Cette maîtrise a malheureusement, pour le moment, disparu lors des déménagements incongrus et inutiles de l'université de Bordeaux 3, qui un jour a vidé les bureaux. Et Dieu reconnaîtra les siens. On ne l'a pas retrouvée, celle-là. Donc, si vous voulez, je suis très heureux d'avoir cette continuité avec cette époque des maîtrises. Et la maîtrise était bonne, et je crois qu'elle avait vu les servantes de Marie très longuement à l'époque. Elle vous avait consulté. C'est un peu loin, hein, maintenant, hein, je dois dire. Alors, canonisation des figures sociales au XXe siècle et au début du XXIe, hein, vous me l'accorderez, c'est-à-dire jusqu'au pape François, c'est comment voir les invitations à la sainteté, comme disent certains historiens, comment les situer dans un cadre historique, purement historique. Tout à l'heure, la sœur Louisette avait dit, en citant le cardinal Angelo Amato, qu'effectivement la sainteté était intéressante parce qu'elle donnait des modèles, et elle donnait en même temps un enracinement historique. C'est-à-dire, comment peut-on être saint dans une époque donnée? Et ça, l'Église répond et donne des figures de la sainteté différentes au cours des siècles. Et spécialement, et vous l'avez ressenti avec la cause Sestac, tout au long du 20e et du début du 20e, je dirais 20e pour 20e et début 21e, hein, je ne vais pas répéter. Donc, pour le 20e siècle. Et effectivement, il y a une évolution, et la prise en compte par l'autorité suprême en matière de canonisation et de béatification des figures sociales, la plupart du XIXe siècle, mais pas souvent, pas toujours, pardon. Alors, y a-t-il eu un changement de stratégie dans les canonisations? Est-ce qu'il y a eu une traduction de l'entrée dans les signes des temps si cher à Jean XXIII, qui lui n'a canonisé aucune figure sociale. Son pontificat était trop bref, et puis je ne suis pas sûr que c'est ce qui l'intéressait le plus, curieusement. Et je dirais, dans cette espèce de mariage, de dialogue, entre d'une part le secrétaire de la congrégation des rites, bien sûr, devenu la cause des saints, et le souverain pontife, qui prend des décisions, qui donne une orientation. Il y a un très bon livre du directeur de l'Osservatore Romano, qui s'appelle Jean-Marie Vian, qui s'appelle « Papi e santi dalla rivoluzione alla prima guerra mondiale », c'est-à-dire « Papes et saints de la Révolution française à la fin de la Première Guerre mondiale ». Et il m'a ainsi marqué son livre, qui est intéressant, qui répond à une idée que nous avons tous développée dans nos thèses, en particulier sur la papauté, et je dirais qui montre qu'il y a toute une politique jusqu'à la fin du premier conflit mondial qui change ensuite. Alors la béatification du père Sestac s'inscrit peut-être dans cette vision historique. Elle découle d'un long processus, on en a vu les blocages, les postulateurs, les groupes, le cardinal, vous n'avez pas vu le pape, enfin à la limite c'était pas inconcevable pour essayer de le convaincre en personne. Et ce que vous disiez aussi tout à l'heure, ce mélange de sainteté et de figures sacerdotales et religieuses. Bon, là, c'était le frère et la sœur, mais il est évident que la sainteté est une sainteté sacerdotale et religieuse, et que ce n'est qu'à une époque récente, nous allons le voir dans quelques minutes, que la sainteté touche vraiment des laïcs, de plus en plus. Il y en a toujours eu, hein, mais les figures sociales laïques commencent à entrer, avec d'ailleurs des demandes de canonisation qui poseront question dans l'avenir. Je ne sais pas si vous êtes du comité des historiens qui demande la canonisation d'Edmond Michelet, ministre de la justice du général de Gaulle. Je ne suis pas persuadé que l'avocat du diable n'aura pas de travail. Hein. Je pense que c'est bien qu'on ait posé, parce que Michelet est une très belle figure chrétienne. Enfin bon, ministre de la justice pendant la guerre d'Algérie, je ne suis pas sûr que ce soit facile d'aboutir à une béatification. Toujours est-il que ce que je voulais montrer, c'était donc cette impulsion papale, cette tonalité qui change au cours du XXe siècle, et montrer comment les extérieurs, car Philippe Lupès l'a bien montré tout à l'heure, et les Italiens sont favorisés. La moindre religieuse qui a une extase en nombril a 10 fois plus de chances que la religieuse française de Bayonne de devenir bienheureuse. C'est évident, quand vous prenez le train, que vous voyez que vous avez 1h05 pour aller à Rome, effectivement, ça explique. Mais ça évolue. Énormément depuis Paul VI et surtout Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Alors François vraiment ouvre énormément, et c'est assez intéressant. Et là, c'est pas toujours des figures sociales. Et les figures françaises ont toujours été considérées comme importantes malgré tout, hein, nous allons le voir. Et ces figures françaises, parmi lesquelles le père Sestac, s'inscrivent dans un message qui se veut très actuel. Alors, au fond, une béatification, ça répond à un besoin de l'Église. Ça répond à un besoin de l'Église. Il est évident que il y a cette double entrée d'une béatification-canonisation qui ne cessera jamais, et que tu as tout à l'heure, Philippe, très bien défini. Il y a l'œuvre et la personne. La personne doit être sainte. Et alors, elle peut être sainte parce que l'arbre qui porte ses fruits peut répondre à l'Évangile. Je juge l'arbre d'après ses fruits. Mais nous avons malheureusement une excellente, je pense, congrégation actuelle, et qui a un arbre un peu suspect. Et ça, c'est très mauvais, hein, parce que le charisme du fondateur, c'est ce qui est mis en avant par le Concile Vatican II. Et avoir un bienheureux avec son charisme, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, 3 points. Je vais essayer de rester dans les horaires, parce que comme vous le disiez, je brasse là. Hein. Alors, trois points. 3 points. Le premier point, donc, cette continuité du 19e et du début du 20e siècle, comme le disait Vian dans son ouvrage, qui est, c'est vrai, je l'ai lu au moment de l'exposé, je dis la vérité, donc je le trouve très bien, peut-être que dans un mois je le trouverai moins bien. Effectivement, si nous regardons les canonisations dans le passé, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, nous constatons qu'il y a beaucoup de figures de canonisées et que les figures sociales qui sont retenues ne sont pas majoritaires. Elles ne le sont pas toujours. J'entends par... J'entends figures sociales, je le mettais dans le petit résumé, ce que dit Littré. Littré nous dit, j'ai dit Littré, franc-maçon, athée, se convertissant peut-être sur son lit de mort, je vais le citer quand même pour montrer l'ouverture de ce colloque. Alors Littré nous dit qu'une personnalité sociale, c'est quelqu'un qui est destiné à faire le bien de tous dans le domaine de la pauvreté, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des œuvres. Donc on est en plein... Il entend laïque, lui, bien entendu, mais on est en plein dans la figure sociale telle que nous voulions la définir avec le père Sestac, société, religion, charité au XIXe siècle. Alors longtemps, on a vu effectivement les grandes figures charitables étaient longtemps minoritaires et elles pouvaient attendre. Alors je ne parle pas de saint François d'Assise. Est-ce une figure charitable ? Est-ce que ça va au-delà ? Est-ce que c'est une figure sociale ? Il a été canonisé tout de suite, et tout le monde en est très content, et à l'époque encore plus. Mais si nous prenons par exemple la canonisation de Saint-Vincent de Paul, elle fut très difficile, parce qu'il y avait pas mal d'obstacles. Je n'ai pas pris les dates, mais ça a mis vraiment un temps extrêmement long. Et pourtant, c'était, disait Léon XIII, le patron de toutes les œuvres charitables du monde. Malgré cela, voilà, je les ai. Il meurt en 1660, et il attend 1729 pour être béatifié, et 1737 pour être canonisé. D'autres saints, y compris des Italiens, attendent un certain temps, et les débats doctrinaux, dont on a parlé tout à l'heure, les détails d'une vie, peuvent obscurcir l'essentiel d'une cause. Il suffit d'un détail pour que l'essentiel d'une cause soit obscurci. Alors, ce détail, évidemment, il peut être, comme l'a dit l'avocat du diable de Sestac, un amour immodéré pour la mener. Alors, si on aime trop la mener, effectivement, vous disiez tout à l'heure que les problèmes doctrinaux sont terribles. Il peut être janséniste, alors là c'est vraiment le terrible d'être janséniste. C'est pas rigolo, hein, de toute façon, d'être janséniste. Mais de toute façon, ça peut être terrible aussi pour la canonisation. Et il y a aussi, je dirais, des problèmes de détail. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, je le disais tout à l'heure, le père Noailles, fondateur de la Sainte Famille, n'est pas encore béatifié. Alors on attend. Et je suis sûr qu'il est au ciel, bien sûr. Mais on ne veut pas le donner comme modèle, alors que la Sainte Famille est même une très belle congrégation, et que ce pauvre Noailles n'a rien fait de mal, j'en suis sûr. Enfin, on en est tous sûrs, mais l'avocat du diable, pas tant. Vous nous direz tout à l'heure si vous êtes au courant. Bon. Alors, Pie X et Benoît XV se situent dans la lignée de l'époque précédente. Pie X ne s'intéresse qu'assez peu aux questions sociales, malgré le fait que Rerum Novarum vienne d'être publié, parce que Pie X était extrêmement envahi par le doute, par le modernisme et par les affaires françaises. Ça l'occupait à plein temps, je dirais, et il y avait vraiment de quoi. Et Pie X, donc, n'a pas cherché dans ce sens-là. Il a tout de même béatifié, pour montrer son ouverture, les Carmélites de Compiègne, et il a béatifié Jeanne d'Arc, ce qui tout de même, il était temps, je dirais, elle a attendu pas mal, Mais je pense que c'est tout simplement parce que c'est comme ça, quoi. Ça fera un coup des Anglais, probablement, de faire attendre pendant des siècles cette pauvre fille qui, effectivement, n'avait pas commis de péché majeur, me semble-t-il. Et l'éducation, les orphelins, la charité, on en parle un peu déjà, mais ça va lentement. Alors Benoît XV, dont le pontificat est brillant, même s'il est très bref, Benoît XV, tout de même, béatifie Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la Charité, ce qui est déjà une ouverture vers ce genre de sainteté. Et surtout, vous allez me dire que c'est un Italien, mais tant pis, s'il me paraît capital, le 19 avril 1917, Benoît Joseph Cottolengo. J'y reviendrai tout à l'heure, car ça me paraît capital. Et en même temps, il introduit la cause, qui me paraît plus que capitale, de Don Bosco. Et il me semble que la cause de Don Bosco est celle qui a dénoué le problème des figures sociales, nouveau style, au XIXe siècle. Alors, les vertus hagiographiques sont évidemment là, pour ces saints, pour ces bienheureux. Les personnes subissent évidemment une enquête approfondie dont on vous a décrit tout à l'heure les effets, mais en même temps les œuvres. Les œuvres, c'est-à-dire ce qu'a laissé Louise de Marillac et évidemment ce qu'a laissé Benoît Joseph Cottolengo, qui était une figure très amie des handicapés. Que tous les handicapés n'aiment pas. J'en parlais avec un ami handicapé et il disait qu'il y avait un paternalisme. Paternalisme peut-être, mais aide certainement. Aide certainement. Alors l'entrée dans le monde de ce temps, je prends le titre de Gaudium et Spes, remonte évidemment à avant Vatican II, et moi je le fais remonter pour cette communication au pontificat de Pie XI. Le monde de ce temps est déjà présent dans le pontificat de Pie XI, 1922-1939. Alors non point que Pie XI ait été un progressiste à tout craint, qu'il ait pensé à des questions d'ouverture à tout craint, il n'y a qu'à voir sa politique œcuménique et sa non-réforme liturgique. Il n'a absolument rien touché. La seule chose qu'il ait faite, c'est rajouter le plateau de la messe à la communion. Alors, vous voyez, je ne pense pas que c'est là-dessus qu'on puisse juger. En revanche, je pense que Pie XI a bouleversé l'Église, mais ça c'est ma thèse, c'est mon idée, et en particulier dans le domaine de la sainteté. J'ai essayé de faire un chapitre dans mon travail sur le choix des saints de Pie XI, qui est très varié. Alors, ce sont des saints, évidemment, français, mais ceux-là ne sont pas des figures sociales encore, puisqu'il s'agit essentiellement de Sainte Thérèse de Lisieux, figure non sociale par excellence, carmélite, donc à l'écoute du monde, mais sûrement pas à accueillir les orphelins, et le curé d'Ars, alors, figure très sacerdotale, mais c'était voulu. Me semble-t-il, alors il a canonisé un certain nombre de théologiens, en particulier Saint-Pierre Canisius, qu'il appelait le marteau des hérétiques, ce qui vraiment était... Aujourd'hui, on ne pourrait plus dire ça. Et puis, brusquement, moi je vois dans la canonisation, dans la béatification de Don Bosco, une accélération et une mise en valeur d'une très belle figure, très très belle figure de la sainteté. Alors Don Bosco, je vous le rappelle, est mort en 1888. Il a été béatifié en 1929, à l'occasion, peu après les accords de Latran, car il avait été très 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 vigoureux face à l'unité italienne, et il a été canonisé en même temps que Cottolengo en 1934, au moment de l'année sainte extraordinaire. Enfin, c'était 1933, l'année de la rédemption, mais en 1934, Pie XI a canonisé Bosco et Cottolengo. Alors pendant ce temps, c'est vrai que la candidature de Sestac traînait. Hein, elle n'est pas arrivée. Excusez-moi. Il aurait fallu que Pionze connût davantage Sestac, car Pionze déclare tout de go en 1934 « Je ne peux pas attester de sa sainteté, je la proclame parce que la congrégation a décidé, mais je peux en parler parce que c'était mon confesseur. » Alors, le confesseur de Pionze était Bosco, donc il a pu voir, et Don Bosco a laissé de très nombreux témoins et une œuvre salésienne, évidemment, qui correspond bien, je crois, aux besoins du temps. Alors, certains ont évolué, comme le cardinal Amato, qui est un salésien. Et oui, mais que voulez-vous, quand on vous demande d'être cardinal, ce qu'on a dit en rentrant chez les salésiens, ça compte plus. C'est la volonté papale qui décide. Mais en fait, c'est vraiment ces figures sociales, d'où peut-être la sympathie que vous avez trouvée, hein, parce que c'est vraiment sa vocation première. Il a été ordonné dans l'ordre des salésiens. Et cet élément important du pontificat, véritablement, me semble la mise en valeur de la préoccupation de la papauté actuelle, lointaine, en faveur de la jeunesse. On est en pleine période fasciste en Italie et nazie en Allemagne, et c'est des grandes bagarres de l'action catholique, des orphelins, les prostituées. Bon, Don Bosco, je ne sais pas s'il s'en est occupé, je ne crois pas. Il me semble qu'il ne s'occupait que des jeunes garçons. Alors, j'ai découvert, je voulais vous l'amener, une bande dessinée de Franquin, de 1941, que j'ai achetée. Franquin, c'est l'auteur de Spirou, sur Don Bosco. C'est très bien. Il vous reste à trouver un Franquin pour vous faire une bande dessinée pour les jeunes sur ces stacks. Ça passe très bien. Franchement, c'est un grand auteur de bande dessinée. Hein, vous lisez ça et à la fin, vous avez l'impression que Don Bosco... Alors, il en rajoute sur les miracles, hein, ça voilà. Franquin, mais nous verrons... Or, c'était pas tellement l'objectif de sa bande dessinée. Alors, je dirais que, évidemment, cette canonisation importante s'accompagne de celle de Cotolengo, qui est le fondateur, je vous le traduis, de la petite maison de la Providence où il accueille les handicapés. Il est béatifié, je le dis tout à l'heure, en 1917, il est canonisé en 1934, et Pionze salue une spiritualité sacerdotale organisatrice. C'est-à-dire que je pense qu'on est en plein dans ces stades. Et hélas, le dossier, là, n'arrivait pas jusqu'à la connaissance papale, pour les raisons que vous avez très bien décrites. En 1934, d'ailleurs, Pionze continue à canoniser, dans la continuité de Saint-Vincent de Paul, Jeanne-Antide Touré, qui est fondatrice d'une congrégation charitable, et il y a cette vocation. Alors, il n'y a pas que celle-là, mais on voit apparaître vraiment l'ouverture au monde, la prise en compte du 19e, et Don Bosco me paraît un excellent exemple. Alors, Pie XII ne néglige pas ses canonisations et béatifications de figures sociales. Et il le fait d'ailleurs avec une certaine ouverture, puisque c'est lui qui canonise, vous le savez, Michel Garicoïs, et Bichet des Anges, la sœur Bichet des Anges. Bien entendu, je ne les mets pas trop dans les figures sociales, sur les figures éducatives, mais vous voyez, il y a une ouverture, et la cause de Garicoïs, si proche de votre congrégation, de la congrégation des Servantes de Marie, si j'ai bien compris, les pères de Bétharram étaient les confesseurs des Servantes de Marie pendant un certain temps, a dû satisfaire les enfants de Sestac, hein, les enfants spirituels du père Sestac. Mais ça n'était pas encore le père Sestac. Et Pie XII a préféré, sur le plan social, mettre des préoccupations nouvelles, Par exemple, il canonise deux proches de Don Bosco, le prêtre Cafasso, qui lui a succédé, et qui a été canonisé en 1947, alors qu'il est mort en 1925, et surtout le jeune Dominique Savio, qui est sauvé par la prière de Don Bosco. Dans la bande dessinée, c'est remarquable, il y en a toute une page, et c'est vraiment du meilleur effet. Ce garçon, vraiment, a la foi, et je pense que Pie XII, vous savez, il avait canonisé aussi Marie Goretti au même moment, pour d'autres raisons, mais donc ces figures sociales, Pie XII les met quand même en valeur. Alors, bien sûr, il y a une sainte qui me paraît intéressante, parce qu'elle montre la modernité de la papauté, qui vraiment voit les problèmes du temps, c'est Françoise Xavier Cabrini, et qui est en gros une religieuse qui s'est beaucoup occupée des émigrés. Et ensuite, il y a eu, quelques années plus tard, la canonisation de Scalabrini, qui a fondé les Scalabriniens. Et je crois qu'il y a une préoccupation sur les migrants. On en parle beaucoup en ce moment, peut-être trop, j'en sais rien, donc on en parle. Et Pie XII avait senti, avant même Jean XXIII, avant Pacem in Terris, avant Mater et Magistra, cette idée des émigrés qui perdaient leur identité et leur catholicisme. Alors si on en juge d'après le pape François, c'était pas la peine d'envoyer des missionnaires, mais enfin, il est certain que c'était un problème du temps. Enfin, troisième partie, et je vais terminer rapidement pour rester à peu près dans les temps. Une exemplarité élargie. Depuis Jean-Paul II, il y a une ouverture, mais une ouverture très importante au niveau des figures sociales. Alors le pape Jean XXIII, comme je vous le disais tout à l'heure, a peu canonisé de saints. Et pourtant, il avait de très grandes dévotions. C'est un pape qui priait beaucoup. Il priait beaucoup Saint Pie X, par exemple. Et il priait beaucoup un saint qu'il avait canonisé, dont j'ai oublié le nom. Je ne connais que lui. Mais ce qui n'était pas une figure sociale. On est très surpris, c'est peut-être la brièveté du pontificat. Alors Paul VI, on se serait attendu à avoir, ça y est, on y est dans l'Église d'après Vatican II, Eh bien, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il s'intéresse beaucoup, finalement, je ne sais pas ce qu'on nous dirons, nos historiens, si Dieu nous prête vie, ou ce que diront nos successeurs sur Paul VI, parce que tout ce qu'on fait actuellement, c'est du provisoire, hein, pour dire ce qui est. Et on a besoin d'un recul quand même, hein, un petit peu. Tous ces martyrs du tiers-monde qu'ils canonisent. Il passe son temps à canoniser des martyrs du tiers-monde. C'est intéressant, parce que c'est une ouverture, mais ce n'est pas les figures sociales, alors que Montini, ça aurait été le pape parfait qui aurait dû canoniser des figures sociales. Alors, ce n'est qu'une hypothèse d'historien. Je parle devant mon collègue, qui, bien sûr, je dis que ce n'est qu'une hypothèse, hein, bien évidemment. Et il a quand même béatifié la mère Eugénie de Jésus, fondatrice de l'Assomption, bon, côté éducatif. Ce qui est... Et dans la famille de Don Bosco, il a canonisé un ami de Jean Bosco, Michel Rua. Don Bosco, c'est vraiment... Il faut dire que les Salésiens sont un groupe d'influence important à Rome, et effectivement, c'est dû à leur talent... C'est dû aussi au fait que, bon, ils étaient à des postes importants à cette époque, qui se sont terminés tout simplement par le fait que le cardinal Bertone, secrétaire d'État, était salésien. Ça n'a pas duré longtemps avec le pape François, mais il est certain qu'il y a une influence d'un ordre vénérable et d'une figure admirable qui est Don Bosco. Alors, le souffle nouveau pour le Saint-Siège, je termine évidemment sur les papes récents, très récents, le pape actuel très vite. Les figures sociales n'occupent toujours qu'une place parmi les autres, mais une place de plus en plus importante. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les papes, ont lu leur manuel d'histoire. Par exemple, ils ont lu l'histoire du catholicisme social au XIXe siècle, de Durosel et d'autres, et ils savent qu'en France, par exemple, il y avait des figures particulièrement belles sur le catholicisme social. Et vraiment, il y a là un rattrapage extrêmement rapide. Alors, excusez-moi de parler du Saint-Père je devrais en parler avec révérence chaque fois et avec onction, mais pour ceux qui connaissent bien Rome, je parle à la romana, du pape à la romana, c'est-à-dire avec un peu aucune distance, bien entendu. Alors, Jean-Paul II est favorable à une église de modèle. Alors, c'est à étudier, ça a été étudié, hein, mais ça le sera. Pourquoi multiplie-t-il tant les canonisations et les béatifications? En tout cas, ça permet les béatifications et les canonisations de saints qui, effectivement, attendaient et qui, fort heureusement, sont désormais sur les autels. Jeanne Jugan, Brottier, le Père Chevrier, tout le 19e et tout le début du 20e sont repris par le pape Jean-Paul II, qui Scalabrini, qui était simplement béatifié, qui canonisé. Le père Chaminade, cette joie des marianistes. Vous n'êtes pas bordelais, mais si vous aviez vu la joie des marianistes de Bordeaux, quand le père Chaminade a été béatifié en 2000, vraiment, ça faisait plaisir à voir. C'était le charisme du fondateur. Alors lui, sa casserole à ce pauvre Chaminade, c'est que il était fatigué et qu'on a eu un successeur à la fin de sa vie qui a fait des choses pas terribles. Alors on a dit, mais Chaminade n'avait pas veillé. Non, en fait, il était âgé et fatigué. C'est un authentique saint. Alors, j'avais envie d'appeler Chaminade, le père Sestac, le Chaminade bâillonné. Et puis non, parce qu'il y a un décalage, me fait remarquer quelqu'un, il y a un décalage chronologique. Chaminade est né à la fin, vers 1760, alors que le père Sestac est né au début du 19e siècle. Mais il y a un petit peu, je ne sais pas si... Puis les marianistes ne sont pas les servantes de Marie. On a déjà canonisé, certes, Adèle de Batz de Trinquéléon, qui est une fille de Chaminade. Mais vous voyez, on a repris toute cette... là, je tombe dans le sud-ouest, alors je vais arrêter de... Je vais peut-être en sortir un petit peu. Puis alors, le Champagnat, bien sûr, fondateur des missions de campagne. Un Italien, Don Luigi Orione, qui en Italie, ça fait beaucoup de bruit, et dans le bon sens. Et puis alors, pour notre plus grand plaisir, à nos historiens, en 2003, la sœur Rosalie. Sœur Rosalie, qui avait tellement aidé les Parisiens. Alors, le signe le plus parfait de cette évolution, c'est à mon avis, mais vous l'attendez, hein, la béatification d'Ozanam. Ozanam à Paris. Le pape Jean-Paul II a béatifié un laïc, fondateur des conférences de Saint-Vincent de Paul, figure vraiment éminente du clergé français et en même temps professeur à la Sorbonne. Mais je ne sais pas si on a beaucoup fouillé sa vie universitaire. Hein. Autrement, il serait peut-être encore... il serait peut-être encore au purgatoire. Non, c'est une très belle figure laïque, sociale, éducative. Et la France, là, est très bien représentée. Et le professeur Passos... C'est... regrette peut-être que je ne parle pas de l'Espagne, mais je n'ai pas pris mes exemples espagnols en Espagne, mais il y en aurait beaucoup, 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 évidemment. Alors, on a une très large ouverture du monde, certes, mais à la mystique, aux martyrs, mais la figure sociale est importante. Alors, le père Sestac, évidemment, a attendu le pape François, et l'histoire de cette béatification a été faite. Mais je crois qu'elle s'inscrit bien dans la stratégie papale de reconnaître dans le passé des charismes du présent. Et ça, je crois que c'est ce que vous avez dit dans votre conclusion. Et je pense que Pie XI l'avait déjà vu avec Don Bosco. Et je pense que le père Sestac donne au présent un message extrêmement vigoureux. Alors, les canonisations de Benoît XVI sont tout de même importantes aussi, je ne peux pas ne pas les citer. Elles ont précédé donc le père Sestac. Par exemple, Toniolo, qui était un penseur italien laïque extrêmement important, une espèce de Michelet, d'être bon Michelet, mais qui n'a pas été ministre, alors pas du général de Gaulle, mais je ne sais pas de qui, de Salandra. Et ensuite, nous avons effectivement le père Lataste. Alors, le père Lataste, c'est le fondateur de l'œuvre des prisons, des dominicaines des prisons. Et il a été béatifié il y a 3 ans par le pape Benoît XVI. Et là aussi, ça a été un grand événement, alors du diocèse de Bordeaux, qui a vu en lui une figure sociale, dans le sens que j'avais donné, extrêmement importante. Alors, je termine, j'ai fini. Vous voyez, j'ai à peu près fini cette présence des figures sociales. Je dirais que, finalement, il est revenu au pape François, et je suppose que vous en êtes contente, parce qu'il est fort sympathique, que, bon, c'est le pape régnant. Il est revenu de béatifier le père Sestac. Au fond, il a mieux valu que ça se passe selon la procédure actuelle, parce que ça s'est fait dans votre cathédrale, avec le cardinal Amato, alors que là, ça se serait fait à Saint-Pierre de Rome, en groupe, et il aurait fallu y aller. Je vous cherche les béatifications, c'est vrai que c'est pas plus mal. Et le cardinal Amato, justement, nous donne le sens, vous l'avez dit tout à l'heure, et très bien. J'ai relu toute l'homélie du cardinal Amato. Certes, il parle de l'homme et de ses vertus, mais surtout, j'y reviendrai éventuellement dans l'exposé que je dois faire hier, puisque je suis doté d'une seconde communication. Mais surtout, la vérification du charisme dans les œuvres qu'il a laissées et leur signification profondément évangélique. Alors, je dirais que pour le cardinal Amato, j'y reviendrai demain, pour ceux qui voudront bien m'écouter. Le charisme principal de Sestac, même si c'est banal, c'est la foi. Et j'y reviendrai en mettant ça en comparaison dans les courants historiographiques. C'est la foi. Alors là, à partir de là, effectivement, l'historien est obligé de se retirer un petit peu, et même beaucoup, parce que ça n'est pas évaluable. Je dirais simplement, en tant qu'historien, que si on porte un jugement sur le choix de cette figure sociale, elle paraît vraiment tout à fait dans la ligne de Vatican II, de l'ouverture au monde, et le père Sestac me paraît à la fois dépassé et de notre temps. Dépassé uniquement dans le style. Vous avez entendu tout à l'heure les lettres. Si vous lisez les œuvres du père Sestac, c'est un homme du XIXe siècle. Et on a l'impression que c'est poussiéreux et décourageant, mais on écrivait comme ça au XIXe siècle. Et ça n'a aucune importance, parce que ce qu'il dit en réalité est très actuel. Et alors, un homme en vérité sans distance, car l'actualité est très forte dans son œuvre et dans son enseignement spirituel. Alors, bien sûr, le cardinal Amato a insisté sur la trilogie ultramontaine. Il aimait, dit-il, le pape, l'Église et l'Eucharistie. Il aurait pu ajouter la Vierge Marie, puisque je crois que... Enfin, à moins que j'ai mal pris les notes du discours. Mais en réalité, c'est une foi très vivante, une œuvre qui me paraît particulièrement intéressante pour aujourd'hui. Et c'est ce que je voulais vous dire en conclusion.
La papauté du XXe siècle et la béatification et la canonisation des grandes figures sociales de l'Église. Vous venez de suivre l'intervention de Marc Agostino, professeur émérite de l'Université Bordeaux-Montaigne. Société, religion et charité au XIXe siècle. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac 1801-1868 par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville d'Anglette. 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge, Anglette. Mm-hmm.